Il est 23h07, pas 27, et nous accueillons Paul. Bonsoir Paul.
Bonsoir.
Bonsoir, d'où nous appelez-vous Paul et quel âge avez-vous?
J'ai 48 ans et je vous appelle de Rouen.
De Rouen, en Seine-Maritime.
Oui, tout à fait.
Voilà. Qu'est-ce qui vous amène Paul?
Ben, en fait, j'avais l'idée était de... Alors pour moi, c'est une première hein, de pouvoir m'exprimer sur un média comme le vôtre. L'idée était de... Alors, je ne vais pas être très original parce que c'est lié à la crise sanitaire que l'on traverse.
Oui, mais c'est un peu dans nos préoccupations actuelles.
Voilà. Donc, voilà. Mais l'idée était en fait de... Parce qu'on parle à longueur de journée d'économie, de récession, d'emplois qui disparaissent. Je trouve en fait qu'on n'aborde pas assez le côté humain et la situation des gens qui se trouvent, que ce soit pour des raisons familiales ou conjugales, qui se trouvent séparés par les restrictions de circulation qui nous sont imposées. J'entends par là des pères, des couples qui vivent chacun dans des villes différentes et qui ne peuvent se voir par rapport justement à toutes ces contraintes liées aux restrictions de circulation. Voilà.
Alors justement, vous êtes au courant de tout ce qui est lié au couple. Alors un couple paxé ou un couple marié ne peut se déplacer ensemble. Je prends un exemple.
Oui.
Quelqu'un qui travaille à Paris.
Voilà.
Avec donc sa conjointe qui travaille à Paris et dont la résidence principale est en Seine-Maritime, par exemple, à Rouen.
Oui.
Eh bien, ces deux personnes peuvent aller et venir entre leur résidence principale et leur travail sans être embêtées, non? Dans la même voiture.
Oui, mais quand les deux personnes, moi je vois en fait, en l'occurrence, c'est par rapport à ma compagne que la situation se pose.
Oui.
Ma compagne habite à Caen, donc, qui est une ville située à 120 km de Rouen.
Oui, oui.
La situation actuelle m'interdit
d'aller la
de
voir.
Déplacer
oui,
pour aller
oui.
la voir. Mmh. On est dans une relation qui est relativement récente, hein, puisqu'on s'est rencontrés fin août.
Oui.
Dans une relation naissante, ce qui n'enlève rien au sérieux et à la force des sentiments qu'il peut y avoir entre nous deux. Elle a un petit garçon de 11 ans avec qui j'ai commencé à créer du lien. Et on a cette situation que je comprends, hein, je suis pas, voilà, loin de moi l'idée de polémiquer ou de remettre en cause quoi que ce soit. J'ai conscience, travaillant dans le milieu de la santé, conscience de la gravité de la situation sanitaire qu'on traverse. Mais il n'empêche qu'on n'était pas forcément préparé à ça. On n'était pas forcément préparé à le revivre. On n'était pas forcément préparé à se trouver dans une situation où on est dans l'impossibilité de voir l'autre, dans l'impossibilité de le toucher, dans l'impossibilité de croiser son regard. Alors, vous me direz qu'il y a plein de moyens multimédia à l'heure actuelle qui permettent d'échanger. Donc, on s'envoie des mails, on s'envoie des SMS, on se voit par visio sur certaines applis. On peut s'écrire, ce qui a un côté un petit peu suranné et charmant. Mais ça ne compense pas tout. Et ça met dans un inconfort qui parfois peut être peut générer
de l'angoisse.
Je voudrais pas non plus mettre des mots trop forts parce que c'est pas de la souffrance, c'est pas de l'angoisse, même si le contexte en lui-même est anxiogène. J'ai l'impression en fait tout ça passe sous silence. Alors, il y a quelques articles, on trouve sur Internet, on trouve quelques articles de revues spécialisées qui traitent du sujet. Mais je dirais sur des médias plus généralistes, aux heures de grande écoute, on n'aborde pas ce sujet-là. Alors que je pense qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont dans cette situation, voire plus, et que sur la quantité, il y en a forcément qui peuvent en souffrir, peut-être plus que ce que moi je ressens. Des personnes qui ont des situations de vie, des fois, qui se retrouvent coincées dans des petits appartements,
oui.
Qui sont dans l'impossibilité de voir la personne pour qui ils ont des sentiments, et qui partagent quelque chose, et qui cherchent à construire quelque chose. Et tout ça s'est passé sous silence, comme si c'était quelque chose de légitime, d'acceptable, qui est ces victimes un peu collatérales.
Oui, c'est vrai. Vous avez raison de dire qu'on l'évoque très peu, pour ne pas dire jamais.
Donc voilà. On nous parle à longueur de l'économie. J'ai conscience que l'économie, c'est ce qui permet de créer du lien dans la société, enfin, à notre pays de fonctionner, de financer le système de santé qui est de qualité et que l'on a, le système éducatif. C'est pas une question de... Je suis pas en train de dire que l'économie n'est pas importante. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et comme je le disais dans le mail que j'ai envoyé tout à l'heure pour pouvoir participer à l'émission, alors les sentiments, l'amour, tout ça, c'est pas taxable. On ne peut pas en acheter des actions. Il n'y a pas de TVA. Mais ça n'empêche que ça peut sauver des vies, que ça permet d'en embellir certaines, que ça reste quand même quelque chose. À longueur d'année, on nous parle que ça doit être une valeur universelle, que les gens doivent le respect. Et au moment où on aurait besoin où des gens se retrouvent dans une situation où ils en ont besoin, où c'est quelque chose qui devient essentiel, ça passe sous silence. Voilà.
C'est vrai, vous avez raison. Ça me fait penser à un témoignage que nous avions eu avant l'été. Alors, je ne me souviens plus si c'était... il me semble que c'était au mois d'avril. On était encore confinés. Et on avait un monsieur de votre région, d'ailleurs, me semble, qui avait entamé une relation depuis 4 ans avec une femme qui habitait, je crois, l'Ukraine ou la Russie. Et qui, tous les deux vivaient un amour. Je crois qu'il avait près de 70 ans, cet homme. Elle en avait 65 et ils étaient très amoureux. Et la situation les empêchait carrément de vivre leur histoire. Quoi. Et c'est vrai que si on n'entend pas des témoignages comme celui-là ou comme le vôtre ce soir, on évoque peu... le nombre de personnes qui sont séparées, qui sont contraintes d'être séparées, et pour qui c'est une souffrance en fait.
C'est quand quelque même... chose auquel on n'est pas préparé. Ça, un jour, on vous annonce, ce soir, il y a le président qui parle, le premier ministre, qui sont dans leur rôle et qui traversent pour eux, je dirais aussi, une situation qui est nouvelle et qui est certainement pas facile. Mais un soir, on vous dit, à partir de demain, minuit, toc, les restrictions tombent. En plus, on est quand même dans Marion qui parlait juste avant, parlait de termes. On a utilisé des termes de guerre, on est en guerre. Il me semble que l'ordonnance qui a été votée à l'Assemblée nationale, le terme précis qui a été utilisé, là j'en ai pas la certitude, c'est une ordonnance pour une restriction des libertés individuelles de circulation. On est quand même dans des mots forts. Et du jour au lendemain, en fait, vous avez le couperet qui tombe, sans possibilité d'aménagement, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit, ni se retourner, ni avoir le temps de réfléchir, voir comment on peut s'organiser. Et on est suspendu à une potentielle date de fin. Alors on sait tous que le 1er décembre, c'est mort. Donc il y a des dates, on voit des dates essaimées par-ci, par-là, on nous parle du 15 décembre, on nous parle de la fête de Noël qu'il faudra peut-être vivre confiné, on nous parle du 15 janvier, aujourd'hui j'ai vu le 1er février, c'est un impact sur les gens, c'est un impact sur... et je trouve que c'est un aspect qu'on n'évoque pas assez. Et j'aurais aimé que nos dirigeants, qui sont prompts à réfléchir sur la manière de sauver notre économie, ce qui est très bien, puissent aussi réfléchir à l'impact humain que ça peut avoir et réfléchissent aussi, se creusent la tête de la même manière que pour l'économie sur des possibilités d'aménagement, de dérogation,
Quelle solution ? Paul, parce que j'entends déjà, d'ailleurs, ça commence à arriver sur notre 739-21. Alors, il y a des personnes qui se manifestent et qui sont totalement d'accord avec vous, qui sont visiblement, qui vivent le même type de situation que vous, en étant parfois séparés d'à peine 5 km, vous voyez.
Oui, il y a des distances qui sont beaucoup plus courtes que...
Ambre de Brest nous écrit qu'elle habite dans la même ville que son amoureux, mais à plus d'un kilomètre et qu'elle ne peut pas le voir. et qu'elle avait déjà raté 2 mois avec lui et que voilà que ça recommence. Mais quelle solution finalement ? Parce que ce Covid a tellement frappé notre monde de sidération en fait, hein, que les problématiques importantes, hein, je dirais, en tout cas qui arrivent comme ça au premier rang, et vous avez cité l'économie tout à l'heure, et donc tous ces gens que l'on voit perdre leur travail, perdre leur entreprise, il est certain que ça peut paraître dérisoire pour d'autres d'entendre parler de ce dont vous témoignez ce soir, hein, Paul, mais quelle solution à ça ? Est-ce que vous parliez de dérogation ? Est-ce qu'il faudrait demander
j'ai
si les choses s'éternisent ?
Je n'ai pas de solution, Olivier, par rapport à ça, malheureusement. Et j'ai envie de dire que ce serait aussi le rôle de nos dirigeants de se pencher là-dessus. Mais je vous dis, loin de moi l'idée de minorer l'impact économique, l'impact que ça peut avoir, le fait d'être en chômage partiel sur des gens qui ont des revenus souvent qui peuvent être moyens ou voire plutôt des bas revenus. Comme pour les artisans qui... alors je mets les entreprises du CAC 40 un petit peu à part, mais par rapport à des artisans qui créent une entreprise, c'est prendre un risque, c'est investir son temps, c'est investir son argent. Et j'entends très bien les situations dans lesquelles se trouvent ces personnes et il est légitime de toute manière de tout faire pour les sauver. Mais pour moi, ça ne reste qu'une composante du problème, vous voyez. Et à l'heure actuelle, cette composante occupe tout l'espace médiatique.
On va continuer à l'évoquer, si vous voulez bien, Paul. On marque une petite pause et puis je reviens tout de suite.
Oui.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Il est 23h20, vous êtes sur Europe 1, vous pouvez composer le 3921 et appeler Natacha ou Florian qui vous attendent avec impatience au 3921. Ils sont là, ils me regardent, bon, ils sont un peu en ligne aussi, mais ils ont toujours la place pour vous écouter, vous recevoir et peut-être... trouver une place dans laquelle nous pourrons échanger tout à l'heure, chers amis. Nous sommes pour l'instant avec Paul qui habite Rouen et qui est séparé de l'amour de sa vie, hein, qui depuis quelques temps maman d'un petit garçon de 11 ans qui elle habite Caen, puisque Paul habite Rouen. Et on se pose la question ce soir, quelle solution pour toutes ces personnes qui s'aiment et qui se voient séparées momentanément, soit, mais pour combien de temps en fait ? C'est ça qui est aussi un peu sans doute douloureux, c'est de ne pas savoir quand et prévoir quoi que ce soit, Paul.
Là, vous me diriez, ce soir, on me dirait, voilà, le confinement s'arrête le 1er décembre. J'ai envie de dire, on a mi-chemin. Voilà. Mais le fait d'être de pas avoir de date, de pas savoir, et ça rajoute quand même une dimension en plus supplémentaire au côté difficile de la situation. De pas avoir de date de fin, que ça soit, on n'a pas une personne qui est capable de nous dire. On entend de multiples versions quant à des dates. Tout le monde fait son hypothèse. Je trouve que plus il y a de discours, plus ça nuit à la qualité du discours et moins c'est audible, en fait. Et à l'heure actuelle, on entend, sur une même journée, on va entendre plusieurs hypothèses. Alors, de gens certainement très compétents dans leur domaine, mais je pense que dans de telles situations, il faut aller dans la même direction, et il faut parler d'une seule voix, ou qu'il y ait une personne qui s'exprime. Et c'est vrai que là, c'est un peu confus. Alors, je ne sais pas si c'est un sentiment général ou, pour le coup, si ça n'engage que moi, mais je trouve que déjà, au niveau de cette communication, quant aux dates, quant aux conditions qui vont être nécessaires, il y a énormément de confusion. Et donc voilà, et ça rajoute un côté complexe à cette situation parce qu'on ne peut pas se projeter, on ne sait pas comment... Si on passera Noël ensemble, qui est quand même une fête de... Ça a une image forte, hein. Même si pour le coup, ma conjointe n'est pas une grande fan de Noël. Mais, Mais voilà, c'est ce côté de pas savoir, ce côté de pas savoir, et ce côté d'avoir cette sensation que c'est passé au second plan, comme si ce n'était pas important.
Alors, votre témoignage suscite quelques réactions inverses. Hein,
oui, non, mais j'imagine bien.
Eliane Delisle nous dit « Mon petit-fils est né jeudi dernier et je fais comme tout le monde, je prends mon mal en patience, l'amour attendra. » Et puis, il y a Isa qui nous écrit « Mon père est parti le 1er septembre 1939 à la guerre, il est revenu en mai 45, ma mère restait avec deux enfants de 14 mois et 2 jours, nous n'en sommes pas encore là. » Non, heureusement, Isa. Mais non, mais on peut tout de même évoquer cette problématique ce soir,
parce qu'il y a beaucoup. J'ai mon papa, moi, qui est parti, qui a fait la guerre d'Algérie. Ma mère ne l'a pas vu pendant 18 mois. Elle ne l'a vu qu'une fois sur 24 mois. Donc, j'entends qu'il y a des situations qui sont certainement beaucoup plus difficiles que la mienne. Qu'il y a des gens dans d'autres pays qu'on connu ces libertés ces restrictions de liberté de circulation. Il y a des gens dans certains pays pour qui, à une époque, il y a quelques dizaines d'années, en Amérique du Sud ou dans d'autres pays, pour qui c'était un mode de vie. Mais néanmoins, j'ai conscience qu'il y a des situations qui sont beaucoup plus difficiles que la mienne, mais ce n'est pas parce que il y a des gens qui vivent des situations plus difficile qu'on doit s'interdire de dire voilà, cette situation-là me met dans un inconfort, peut provoquer parfois, alors je vous dis, l'angoisse, la souffrance sont des mots qui sont pour le coup un peu trop forts, mais je trouve ça aussi légitime de pouvoir en parler, d'avoir le droit d'en parler. Donc voilà quoi. Mais j'ai conscience que la vie ne sera pas partagée par tout le monde, et tout comme j'ai conscience qu'il y a des gens qui sont dans ma situation et qui peuvent tout à fait le comprendre quoi.
Non, mais vous soulevez de toute façon un problème qui est clairement vécu par tout un tas de personnes. Alors, Patrick Le Routier, qui est un habitué de la Libre Antenne, nous dit que le gouvernement s'est tellement permis d'empiéter sur nos vies privées, voire même intimes, que finalement, ça a donné l'effet inverse et que beaucoup, comme lui, continuent à vivre, quitte à être dans l'illégalité. On l'évoquait tout à l'heure dans la première partie de cette émission. Il y a dans ce deuxième confinement, on le voit, une incapacité pour certains à se reconfiner. Quoi. Mais bon, ça n'est pas pour ça que je vous incite hein, à prendre...
Non, j'entends voilà. Bien, Olivier. J'ai aussi ce sentiment qui est teinté un peu de colère, parce que je sais que ce soit mon ami ou moi, chacun de notre côté, on a... Moi, mon métier m'impose d'être prudent. Je me lève le matin, je vais travailler, ou l'après-midi, en fonction de mes horaires. Voilà. Et après, je rentre chez moi, voilà, dans mon appartement, qui est un appartement confortable. Voilà, il y a certainement des gens qui en ont des plus petits. Ça veut dire pas de soirée. Ça veut dire que je ne fais plus la bise à personne, que je n'en lasse personne. Depuis le mois de mai, je suis carré dessus. Et j'ai vu tout au long de l'été passer devant les terrasses des cafés, le soir, le jeudi soir, le jour des soirées étudiantes, de voir beaucoup d'abus, de continuer d'ailleurs. Hein, on parlait de cette soirée tout à l'heure qui a réuni 300-400 personnes. J'ai aussi cette amertume qui fait dire qu'on paye peut-être aussi les pots cassés de comportements qui n'ont pas été exemplaires ces derniers mois. Alors, je ne sais pas la solution qu'on pourrait apporter
Ça va être compliqué hein, d'apporter une situation, une solution à tout ça, mais on va continuer de réfléchir. Hein. On marque encore une pause, si vous voulez bien, Paul, et puis on prend ce temps-là pour réfléchir, et puis peut-être on va trouver la solution. À tout de suite.
La Libre Antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est 23h28 sur Europe 1. Vous êtes sur votre libre antenne. Vous pouvez continuer à nous appeler au 39-21 ou nous écrire vos SMS au 739-21 pour nous dire ce que vous pensez du témoignage de Paul ce soir. J'en profite pour vous inviter à rejoindre, si vous n'y êtes pas encore, notre groupe de parole sur Facebook où de nombreux débats, en tout cas de nombreux témoignages suscitent le débat, comme le vôtre, Paul, ce soir, parce qu'il suscite vraiment un vrai débat. Et vous pouvez continuer ce débat sur ce groupe de parole. Voilà, nous sommes près de 11 500 en ce moment, et c'est toujours intéressant de pouvoir prolonger l'échange. Coralie vit la même situation que vous, mais en regard à des situations tellement plus graves, elle se demande pourquoi pas une dérogation pour aller voir votre petite amie pendant que vous y êtes. Moi, ça suscite quelques réactions un peu épidermiques, hein, je ne vous le cache pas, Paul.
J'en ai bien conscience.
Mais en même temps, on est là pour ça. On est là pour évoquer. J'invite toujours les uns et les autres à venir parler de ce qu'on peut traverser dans nos vies. Et puis c'est fait pour ça, on ne fait jamais l'unanimité, hein, mon cher, croyez-le. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui sont séparées actuellement. Mais nos jeunes, en fait, nos ados, là, je trouve que cette période est particulièrement grave pour eux et pas drôle du tout, parce que ils ne peuvent pas vraiment se voir à l'extérieur. En fait, dès que le week-end arrive, ils sont comme tout le monde. Ils doivent être confinés. Il n'y a plus d'endroit non plus pour se retrouver vraiment, à part au collège, à part au lycée. Mais le collège et le lycée, c'est pas vraiment l'endroit qui est fait pour les rencontres. En tout cas, on y est pour travailler. Et bien voilà, évidemment, c'est toujours sympa quand sa copine ou son copain... Et dans le même collège ou dans le même lycée, mais on voit combien ils souffrent aussi de cette situation qui est extrêmement compliquée. Mais
alors c'est clair que personne n'était préparé de toute manière. Enfin ça c'est une certitude. Il n'y a aucune génération qui pouvait être préparée à ça. C'est quelque chose de nouveau pour la plupart des gens. Même si on a chez nos aînés des gens qui ont connu les années sombres de la Seconde Guerre mondiale, mais où là, j'imagine que le contexte était au niveau des libertés de circulation, c'était encore plus radical que ce que nous on connaît. Mais c'est vrai qu'on n'était pas forcément préparé à ça. C'est pas quelque chose qu'on a vu venir. C'est quelque chose qu'on a écouté distraitement au mois de janvier. Je me rappelle, ils en parlaient un petit peu. Ça venait de Chine, il y avait qu'une dizaine de cas en Europe. Donc oui, c'est et j'entends et je comprends aussi les réactions des personnes qui seront en désaccord avec les propos que je peux tenir et ma prise de position. Je suis pas là pour je vous dis pour le truc, c'est l'idée, c'est vraiment de dire il faut pas oublier cette composante humaine et l'impact que ça peut avoir sur les gens, l'impact que ça peut avoir. Je vois sur des patients qui pourraient être soignés en psychiatrie. Enfin, il faut aussi penser à ces gens-là, voilà, et penser à quand on prend un problème, il faut le prendre dans sa globalité, à toutes les composantes, et s'attacher à toutes les composantes qui font partie de ce problème. Et penser collectif, c'est aussi tenir compte de toutes les différentes individualités, de toutes les différents ressentis des gens, quoi, en fait.
Bien évidemment, mais encore une fois, je suis en train de réfléchir pendant que vous me parlez et je cherche comment pourrait-on aménager, déroger pour celles et ceux qui s'aiment, mais je ne vois pas. Et vu la propension à prendre la tangente de beaucoup d'entre nous, je vois pas comment ça pourrait faire le...
Alors, pour le coup, j'avoue que j'y ai pas pensé, Olivier, mais j'ai pas de doute sur le fait que je sais que de toute manière ça va avoir une fin, qu'on va finir par en sortir.
Ça sent bon, hein, quand même, avec l'annonce aujourd'ui d'un nouveau...
Les annonces des vaccins.
Oui, vaccin aux États-Unis, les deux de la semaine dernière, avec un vaccin américain qui ne nécessitera pas d'être gardé, vous savez, à une température aussi basse. Il y a quand même... moi, j'attendais...
Il y a des notes d'espoir. Ouais. Et puis le confinement tel qu'on le vit là, à l'heure actuelle, nul doute qu'il va se terminer dans les semaines, les mois à venir.
Les mois.
Et j'ai aucune inquiétude quand quant à la relation que je vis avec, avec ma compagne, on en sortira certainement plus fort parce qu'on s'adapte, parce qu'on trouve d'autres moyens de communication, parce qu'on essaye d'être inventif sur les intentions qu'on peut avoir l'un pour l'autre. Néanmoins, moi, je ressentais le besoin d'en parler parce que c'est quelque chose qu'on n'évoque pas. Mm-hmm. Et ce que je vous dis, j'ai conscience qu'il y a des gens certainement qui traversent des situations beaucoup plus difficiles, beaucoup plus douloureuses. Mais autant que j'ai envie de m'interdire de... Voilà, de...
Deux SMS qui vont peut-être vous faire chaud au cœur. Le premier d'Alison qui dit qu'il n'y a pas de petite douleur. La vôtre est légitime, Paul. C'est ce que pense Alison. Comme n'importe quelle autre douleur, elle vous souhaite bon courage. Et puis, il y a Agnès qui vous rappelle que... en tout cas, elle vous rassure et elle vous encourage à rester positif et elle vous... rappelle que l'amour grandit dans la séparation et les obstacles, alors que la cohabitation, elle, peut être nuisible. Tout dépend, Agnès. La cohabitation peut très bien se passer. Mais en tout cas, le fait d'être séparé, il est certain, rend cet amour peut-être particulier.
J'en ai conscience, et ma compagne aussi, nul doute qu'on va en ressentir sous certains aspects plus forts, parce qu'on aura développé d'autres... on aura certainement, comme je vous disais tout à l'heure, Olivier, été plus créatif, on aura développé d'autres, utilisé d'autres moyens de communication et on a pris conscience aussi de choses qu'on a envie de vivre et de décisions qu'on va prendre qui vont faire que certainement on va se rapprocher l'un de l'autre et on envisage du coup les choses sous un angle différent.
Mmh. Je crois que pour toutes les personnes qui souffrent actuellement de cette séparation, de cette deuxième séparation, il va y avoir aussi des prises de décision quant au fait de pouvoir vivre ce type de situation et de ne plus être...
Voilà, tirer des enseignements.
Ouais, ouais. Et vous êtes en télétravail et...
Non. Alors, non. J'ai la chance parce que pour le coup, j'estime que je travaille en milieu hospitalier. J'ai la chance d'avoir de me lever tous les matins. Et déjà, je pense que d'une manière générale, en temps normal, c'est plutôt une chance, par les temps qui courent, d'avoir un travail que j'aime, que j'ai choisi, d'avoir des collègues sur lesquels je peux compter, une ambiance de travail qui est faite de soutien, d'empathie, de bienveillance, les uns avec les autres. Donc, non, il y a ça, et heureusement qu'il y a ça, parce que c'est, je pense, pour... je pense que le télétravail, enfin, ça veut dire que vous travaillez chez vous. En gros, ça vous laisse qu'une heure de sortie, quoi, dans la journée, finalement, si on respecte les consignes qui nous sont imposées. Que là, moi, j'estime qu'à l'heure actuelle, j'ai 7 à 8 heures de sortie par jour, mmh, en allant travailler.
Alors, je viens de recevoir un mail qui va dans le sens de votre témoignage, hein, car ce vendredi, plusieurs députés sont intervenus, dont Mireille Clapeau, de La République En Marche, qui a défendu sans succès, Mireille Clapeau qui est députée, hein, qui a défendu sans succès un amendement des amoureux. Cet amendement permettrait aux conjoints, aux concubins éloignés de pouvoir se voir. C'était en mai 2020, vous voyez, ça date un peu, mais preuve en est que même des politiques... se sont intéressés à la question. Merci mille fois, Paul, et j'espère que cette période où les uns et les autres, nous sommes tous impactés à dans différents secteurs de nos vies, que cette période va bientôt prendre fin et qu'on va voir le jour un peu sur tout ça, parce que ça commence bien évidemment à être légèrement pénible. Merci mille fois. Merci. Et puis quand même, le mot de la fin, c'est que vous avez de la chance d'être amoureux. Hein. Donc
Et d'une belle personne.
Voilà.
Et d'une belle personne.
Et bah, dites-vous ça tous les matins et ça passera
très
mieux. Très bien. Portez-vous bien, mon cher
Merci
Paul.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci.